Kevin Wamutwa de prier pour que Dieu bénisse sa parole. Alléluia.
Te bénissons, Père, parce que ta parole est vraie, Seigneur. Elle est vie et esprit, et elle est là pour instruire, pour corriger, Seigneur mon Dieu, et pour nous montrer la voie à suivre encore, Père. Ce matin, nous voulons te bénir de ta parole. Seigneur, ce matin, parle-nous. Tes serviteurs, tes servantes, écoute, Seigneur. Conduis-nous, corrige-nous, Seigneur. Nous voulons être des hommes et des femmes complètement consacrés à toi, purifiés, sanctifiés pour ton œuvre, Seigneur mon Dieu. Merci de nous rendre sensibles encore, que nos oreilles soient attentives, Seigneur mon Dieu, à ta voix. Seigneur, parle. Seigneur, tes serviteurs, tes servantes, écoute. À toi la gloire, Père, au nom de Christ.
Amen. Gloire à Dieu. Voilà, nous allons ouvrir notre Bible, s'il vous plaît, dans l'Évangile de Luc, au chapitre 5, et à partir du verset 13. L'Évangile de Luc, le chapitre 5, et le verset 13. Évangile de Luc, chapitre 5, et verset 13. Jésus leur dit encore, « Si l'un de vous a un ami, et qu'il aille le trouver au milieu de la nuit pour lui dire, « Ami, prête-moi trois pains, car un de mes amis est arrivé de voyage chez moi, et je n'ai rien à lui offrir. » Et si de l'intérieur de sa maison, cet ami lui répond, « Ne m'importune pas, la porte est déjà fermée, mes enfants et moi nous sommes au lit, je ne puis me lever pour te donner des pains. » Je vous le dis, quand même il ne se lèverait pas pour les lui donner parce que c'est son ami, il se lèverait à cause de son importunité et lui donnerait tout ce dont il a besoin. Et moi, je vous dis, demandez et l'on vous donnera.
Est-ce que c'est le bon verset ?
Qu'est-ce que je vous ai raconté ? L'évangile de Luc. J'ai dit 5 ? Ah, excusez-moi, c'est l'évangile de Luc, chapitre 11, verset 5. Voilà, c'était pour voir si vous suiviez attentivement. L'évangile de Luc, le chapitre 11, verset 5. On y est. C'est bon? Allez, on recommence alors. Jésus leur dit encore, « Si l'un de vous a un ami et qu'il aille le trouver au milieu de la nuit pour lui dire, « Ami, prête-moi trois pains. » Car un de mes amis est arrivé de voyage chez moi et je n'ai rien à lui offrir. Et si de l'intérieur de sa maison, cet ami lui répond, « Ne m'importune pas, la porte est déjà fermée. Mes enfants et moi, nous sommes au lit. Je ne puis me lever pour te donner des pains. » Je vous le dis, quand même il ne se lèverait pas pour les lui donner parce que c'est son ami, il se lèverait à cause de son importunité et lui donnerait tout ce dont il a besoin. Et moi je vous dis, demandez et l'on vous donnera. Cherchez et vous trouverez, frappez et l'on vous ouvrira. Car quiconque demande reçoit, celui qui cherche trouve, et l'on ouvre à celui qui frappe. Quel est parmi vous le père qui donnera une pierre à son fils s'il lui demande du pain? Ou s'il demande un poisson, lui donnera-t-il un serpent au lieu d'un poisson? Ou s'il demande un œuf, lui donnera-t-il un scorpion? Si donc méchant comme vous l'êtes, vous savez donner de bonnes choses à vos enfants, à combien plus forte raison le Père Céleste donnera-t-il le Saint-Esprit à ceux qui de lui demandent? Amen. Voilà, nous sommes là. Donc, en présence d'une parabole, même si le terme n'est pas employé, qu'est-ce que c'est qu'une parabole? Précisons-le encore une fois, c'est une histoire toute simple de la vie ordinaire que se plaisait à raconter le Seigneur Jésus à ses auditeurs, mais histoire toute simple qui illustre de grandes et d'importantes vérités spirituelles. Et ce matin, j'ai remarqué que parmi les cantiques que notre frère Asquat nous a fait chanter, il y a bien des cantiques qui traitaient du Saint-Esprit. Et c'est là le thème que je voudrais abordé. Alors revenons aux faits, revenons à notre histoire, revenons à cette parabole. Il s'agit là d'un homme qui est confronté à un grand besoin. Il reçoit chez lui quelqu'un qui est affamé. Il y a urgence, il y a là une nécessité impérative, il faut absolument nourrir, n'est-ce pas, cet homme qui arrive à l'improviste chez lui et qui est dans une grande détresse. Et il se trouve que cet homme qui reçoit cet individu dans le besoin, il n'a rien à lui offrir. C'est le constat qu'il fait, c'est la déclaration qu'il fait, c'est ce qu'il affirme. Un ami est arrivé de voyage chez moi et je n'ai rien à lui offrir. Alors devant l'urgence de la situation, pourtant c'est la nuit, hein, pourtant c'est la nuit, eh bien il se précipite chez l'un de ses amis parce qu'il sait que cet ami-là possède tout ce qu'il faut. Et il se précipite chez cet ami pour que il vienne en aide à sa déficience, à son manque, qu'il soit ainsi en mesure de nourrir le voyageur fatigué. Hein. Et il lui demande, qu'est-ce qu'il lui demande ? Verset 5 nous dit, « Ami, prête-moi 3 pains. » Et l'autre est dérangé, parce que c'est ami. Hein. Si j'allais cogner à votre porte en pleine nuit pour vous demander 3 miches de pain, peut-être vous diriez, mais frère, vous auriez pu attendre demain matin. Hein. Il est dérangé, mais pour se débarrasser de ce gêneur, que fait-il ? Eh bien, il lui donne tout ce dont il a besoin. Ça, c'est l'histoire. Maintenant, quelle est l'application ? Eh bien, c'est une leçon de choses que nous apprend le Seigneur. Et vous avez remarqué que toute cette lecture, elle se fait avec en relation avec le Saint-Esprit. On peut dire que le verset central, le verset le plus important, le verset clé de tout ce passage, c'est le verset 13, où Jésus dit, si d'un méchant comme vous l'êtes, vous savez donner de bonnes choses à vos enfants, à combien plus forte raison le Père Céleste donnera-t-il le Saint-Esprit à ceux qui le lui demandent. Contrairement à cet homme à la porte duquel notre individu vient cogner, notre Père Céleste n'est jamais dérangé. Alléluia. Vous savez ça ? Vous avez remarqué dans les évangiles, Jésus était constamment à la disposition de ceux qui venaient vers lui. Et même lorsqu'il souhaitait avec ses disciples, eh bien, s'accorder quelques temps, quelques instants de repos et s'en aller pour se faire dans un lieu désert, lorsque la foule arrivait, lorsque les gens se précipitaient autour de lui, Jésus oubliait sa fatigue, Jésus oubliait son désir de se reposer quelques instants, et il les accueillait, il les recevait. Ainsi est-il écrit qu'il ne mettrait pas dehors celui qui vient à lui, voyez. Alors, le Seigneur en tire une conclusion. Si cet homme-là, il a fini par donner à l'autre tout ce dont il avait besoin, même si c'est il est dérangé, à plus forte raison, et ça l'important, à plus forte raison, notre Père Céleste nous donnera-t-il qui ? Nous donnera-t-il quoi ? Le Saint-Esprit. Nous sommes confrontés à un monde qui est affamé, vous savez ça ? Et quand je parle de monde d'affamé, je ne parle pas seulement de nourriture matérielle, parce que la parole de Dieu dit que l'homme ne vivra pas de pain seulement. Il y a d'autres besoins que la nourriture matérielle. Certes, c'est important d'avoir l'estomac bien garni, et béni soit Dieu lorsque c'est le cas. Mais je dirais que nous sommes dans un monde qui a faim. Faim de quoi ? Faim de paix. C'est pas vrai ? Parce que les gens sont anxieux, sont troublés, sont perturbés, la situation est inquiétante. Ils ont faim de sécurité. Nous vivons dans un monde inquiétant, dans un monde fait de violence, d'agression. Les gens ont faim de sécurité. Ils ont faim de véritable amour. C'est pas vrai ça ? Hein ? Tous les chanteurs de Katsu parlent dans leurs chansons, eh bien, d'amour, mais c'est souvent un amour charnel ou un amour à l'eau de rose qui ne tient pas la distance. mais le cœur de l'homme, le cœur de l'être humain, afin d'un véritable amour, d'un amour authentique, d'un amour pur et d'un amour qui se prolonge dans le temps. Le monde a faim de consolation, parce qu'il y a de plus en plus des gens qui ont un cœur brisé. Il y a un cœur brisé, parfois derrière un beau sourire qui s'affiche en public, eh bien il y a un cœur qui est complètement perturbé, chaviré, démoli, parce que les aléas de la vie ont fait que, eh bien, ils ont ramassé toutes sortes de circonstances défavorables. Les gens ont faim de guérison, guérison physique, certes, pour les malades, mais guérison aussi morale, guérison affective, guérison émotionnelle. Les gens ont faim de certitude. On n'est plus sûr de rien aujourd'hui dans le monde. On ne sait pas de quoi demain sera fait. Faim de certitude. Ils ont faim d'espérance. Il y a tant de désespoir aujourd'hui. Pensez un petit peu à tous ceux qui sont tellement désespérés qui estiment, à tort bien sûr, que la vie ne valant pour eux plus la peine d'être vécue, se suicident. Et particulièrement les jeunes. Les gens ont faim d'un sens à la vie. Je crois que nous sommes dans une période particulière. Dans ma jeunesse, dans la période qui a suivi de quelques années la guerre, les gens pensaient que le matérialisme, que l'accumulation des biens de toutes sortes pouvaient les satisfaire, et ils essayaient de trouver en cela un sens à la vie. Mais aujourd'hui, bien des gens sont dans un confort remarquable, et puis ils se disent, mais à quoi sert mon existence? Quel est le but de tout cela? Ainsi, voyez-vous, il y a une quête, il y a une recherche, il y a une aspiration spirituelle. Alors, les gens se tournent vers l'ésotérisme, vers ce qu'on appelle la parapsychologie, vers les religions orientales. Hein. Ma fille me disait dans son travail, elle me disait, papa, c'est fou, hein. Pourtant ce sont des infirmières, des gens qui en principe sont habitués à en réfléchir un petit peu au moins, et lorsqu'on leur parle de Dieu, elles veulent rien savoir, mais elles sont prêtes à courir chez le guérisseur, chez le médium, chez celui ou celle qui va leur dire la bonne aventure. Il y a une fin de spiritualité, même si elles s'orientent hélas du mauvais côté. Nous savons, nous, chrétiens, qu'en fait, seul Jésus qui a donné sa vie peut combler les aspirations de ce monde. Jésus est la réponse. Alléluia. Il y a un chant qui dit cela. Jésus est la réponse. Le message de l'Évangile, il faut qu'on en soit convaincu, persuadé, nous, les chrétiens, premièrement. Le message de l'Évangile correspond aux besoins de l'humanité. Le message de l'Évangile correspond aux besoins de nos contemporains. C'est l'Église de Christ qui a, en Jésus bien sûr, la réponse, mes amis, et qui peut, de la part du Seigneur, apporter solution à ceux qui sont dans la détresse. Mais le problème, c'est que par nous-mêmes, nous sommes incapables de répondre à tant de besoins. C'est pas vrai? Lorsque vous êtes en présence de quelqu'un de démuni, qui vous expose peut-être la détresse de son cœur, ça vous est jamais arrivé de vous sentir impuissant, incapable, pas à la hauteur? Que lui dire? Que faire pour lui, pour elle? Et nous sommes comme cet homme qui disait, voilà, il y a quelqu'un qui arrive chez moi, il est affamé, il faut absolument pourvoir à son besoin, et je n'ai rien à lui offrir. Je n'ai rien à lui offrir. Mais si par nous-mêmes, nous ne pouvons répondre à tant de besoins, nous avons un ami dans le ciel. Alléluia. Et un Père même, qui possède tout ce dont nous avons besoin. Un ami et un Père qui est en mesure de nous communiquer ce qui est nécessaire pour répondre à ce monde qui est dans une situation dramatique. Cet ami, c'est aussi notre Père Céleste. Et comme je l'ai dit tout à l'heure, il n'est jamais dérangé quand on le sollicite afin qu'il nous accorde de quoi pourvoir aux besoins de nos semblables. Et c'est par son esprit qu'il veut nous donner la capacité, la possibilité de répondre à la situation qui se présente. L'ami, là, il a demandé, qu'est-ce qu'il a demandé? Ami, prête-moi 3 pains. La demande était précise. Je dirais que notre Père Céleste, il a les 3 pains qui nous manquent. Quels sont ces 3 pains? Eh bien, on va le voir, si vous voulez. Et pour ce faire, on va lire un texte dans la 2e épître à Timothée, au chapitre 1er et au verset 6. 2e épître à Timothée, chapitre 1er et verset 6, où l'apôtre Paul, écrivant à son ami, à son collègue, à ce jeune serviteur de Dieu, car il était jeune, Timothée, 2e à Timothée, chapitre 1er, verset 6, il dit, c'est pourquoi je t'exhorte à ranimer le don de Dieu que tu as reçu par l'imposition de nos mains, car ce n'est pas un esprit de timidité que Dieu nous a donné, mais un esprit de force, d'amour et de sagesse. Mais voilà les 3 pains. Par son esprit, Dieu veut nous donner le pain de la puissance, le pain de l'amour, le pain de la sagesse par son esprit, pour que par ces 3 éléments-là, nous puissions répondre aux besoins de ce monde. L'Esprit de Dieu veut nous remplir. Nous l'avons chanté, nous l'avons affirmé par nos cantiques. Alléluia. Et il veut nous communiquer sa force. Il veut nous communiquer son amour. Et il veut nous communiquer sa sagesse. Moi, j'ai besoin de ça, pas vous? J'ai besoin de ça, voyez. J'ai besoin de la puissance de Dieu. Pas simplement d'un dynamisme humain, d'une énergie personnelle, d'une manifestation purement charnelle, mais j'ai besoin de la puissance du Saint-Esprit. J'ai besoin de l'amour de Dieu, pas simplement une sympathie de surface ou de façade, pas une pitié à l'eau de rose pour ceux qui souffrent, mais un amour qui vienne d'en haut, qui remplisse mon cœur, et que je sois capable de les aimer comme Jésus les aime. Et puis j'ai besoin aussi de sa sagesse. Pas seulement de me servir de mes neurones, c'est pas interdit de le faire, mais quelque chose qui soit bien supérieur à ce que moi je peux produire par mes arguments. Je voudrais tellement, lorsque je parle à quelqu'un qui ne connaît pas le Seigneur, avoir cette capacité, cette pertinence, cette perspicacité qui va nous permettre de prononcer une parole telle que son cœur sera bouleversé, qu'il se convertira. Je voudrais avoir ça. Et si je ne l'ai pas, Dieu l'a. Alléluia. Et il veut me donner par son esprit sa force, son amour, sa sagesse. Et c'est possible. Amen. Vous croyez ça? Vous croyez que Dieu peut vous donner sa puissance, sa force, qu'il peut vous communiquer son amour, qu'il peut vous communiquer sa sagesse? C'est possible, nous en avons un exemple magistral dans la parole de Dieu, c'est l'exemple d'Étienne. Vous savez, Étienne, le premier martyr de la foi chrétienne. On va lire quelque chose le concernant dans le livre des Actes. Voulez-vous lire avec moi, s'il vous plaît, au chapitre 6. Livre des Actes des Apôtres, chapitre 6. Voilà ce qui est écrit au verset 5. Il est dit, cette proposition plut à toute l'assemblée, la proposition de choisir des diacres, des serviteurs dans l'église pour distribuer le secours aux nécessiteux, particulièrement aux veuves, et ils élurent Étienne, homme plein de foi et d'Esprit Saint. Philippe, Procore, Nicanor, Timon, Parménas et Nicolas, prosélyte d'Antioche, et après les avoir présentés aux apôtres, qui après leur avoir prié, leur imposèrent les mains. Au départ, je dirais que Étienne, entre guillemets, était un croyant de base. Vous voyez, nous sommes là dans les premiers temps de l'Église, peu après la Pentecôte, les gens se sont convertis en masse, il y a des milliers d'hommes et de femmes à Jérusalem et un petit peu alentour qui se sont convertis au Seigneur et Étienne est l'un de ceux-là, il s'est converti lui aussi dans les premiers temps de la vie de l'Église, Mais cet homme qui était au départ, je dirais même un croyant de base, s'est rapidement distingué par la qualité de son engagement. Et c'est pour cela qu'on lui a confié cette charge diaconale pour qu'au sein de l'Église, il accomplisse ce service matériel qui consistait à distribuer le secours aux nécessiteux et en particulier aux veuves. Et il y a cette précision, c'est que c'était un homme plein de foi et d'Esprit Saint. En ce temps-là, tous les croyants étaient remplis du Saint-Esprit, alléluia. Mais parmi eux tous, eh bien, Étienne avait franchi en quelque sorte un palier supplémentaire. Il était plein de foi et d'Esprit Saint. Et parce qu'il était plein de foi et d'Esprit Saint, il avait ces trois pains que Dieu lui avait donnés, la puissance, l'amour et la sagesse. Regardez, par exemple, concernant la puissance, au verset 8 de ce même chapitre 6, il est dit « Étienne, plein de grâce et de puissance, faisait des prodiges et de grands miracles parmi le peuple. » Un homme de Dieu rempli du Saint-Esprit et par là même rempli de puissance. Mais il manifestait aussi par le même Esprit de Dieu l'amour. Lorsqu'il a été traduit devant le Sanhédrin, le tribunal suprême chez les Juifs, au verset 15, il nous est dit que tous ceux qui siégeaient au Sanhédrin, ayant fixé le regard sur Étienne, son visage leur parut comme celui d'un ange. La douceur qui était là dans le fond de son cœur, que le Saint-Esprit lui avait communiqué, se reflétait jusque sur son visage. Et lorsque quelques instants plus tard, il va mourir sous les coups de ses bourreaux, puisqu'il va être lapidé, au chapitre 7, au verset 60, il est dit que s'étant mis à genoux alors que les pierres tombaient, imaginez un petit peu l'horreur de la situation, s'étant mis à genoux, il s'écria d'une voix forte, « Seigneur, ne leur impute pas, c'est-à-dire ne leur tiens pas compte de ce péché. » Et après ces paroles, il s'endormit. Quel amour, mes amis, pour être en mesure de prier pour ceux qui sont en train de vous massacrer. Hein. Des fois, nous avons tellement de mal, lorsque nous avons subi eh bien, quelque chose qui nous est désagréable, nous avons parfois bien du mal à faire grâce, n'est-ce pas que c'est vrai ? Nous avons bien du mal à passer sur l'affaire, à pardonner. C'est là le propre de la nature humaine, la vôtre, la mienne, qui est souvent vindicative, rancunière. Mais lui, mes amis, alors qu'il était en train de mourir, d'agoniser, les pierres s'abattaient sur lui, meurtrissaient son corps, encore un instant, quelques secondes, il allait mourir. Mais à l'ultime seconde, il a fait monter vers Dieu cette prière. Ne leur impute pas, ne leur tiens pas compte de ce péché. Quel amour, mes amis. Ça, c'est l'amour de l'Esprit. Ça, c'est l'amour de Christ qui, sur la croix du calvaire, tout pareil, priera pour ses bourreaux en disant, Père, pardonne-leur car ils ne savent ce qu'ils font. Voyez, ça va bien au-delà de la sympathie humaine. Ça va bien au-delà d'une tape dans l'épaule en disant à quelqu'un, comment ça va, hein? J'espère que ça ira mieux la prochaine fois. C'est l'amour que le Saint-Esprit peut produire dans notre cœur, et c'est de cela dont nous avons besoin. Et puis, il possédait aussi la sagesse. Je reviens un petit peu en arrière au chapitre 6 à nouveau. C'est pas, il est dit que des membres, au verset 9, de la synagogue des Juifs, donc dites des affranchis, de celle des Cyréniens, de celle des Alexandrins, avec des Juifs de Cilicie et d'Asie, se mirent à discuter avec lui. Vous voyez, il y a tout un tas d'opposants qui se sont réunis autour de lui pour contester la foi d'Étienne, pour entreprendre une controverse avec lui. Mais il est dit, verset 10, il ne pouvait résister à sa sagesse et à l'esprit par lequel il parlait. Il y avait une telle onction, une telle marque divine, une telle grâce de Dieu communiquée par le Saint-Esprit que ses détracteurs, ses opposants avaient la bouche fermée. Voilà. Il possédait, par la grâce de l'Esprit de Dieu, la puissance, l'amour et la sagesse. Vous savez qu'on a reçu le même esprit ? Alléluia ! Alléluia ! Et la promesse, elle est aussi pour nous, hein ? Nous l'avons lu tout à l'heure, et j'ai bien insisté sur ce verset de l'évangile de Luc au chapitre 11, où Jésus dit ceci, « Si donc méchant comme vous l'êtes, » c'est pas très flatteur, mais c'est vrai que par nature nous sommes méchants, « Si donc méchant comme vous l'êtes, vous savez de donner de bonnes choses à vos enfants, à combien plus forte raison le Père Céleste donnera-t-il le Saint-Esprit à ceux qui le lui demandent ?» Et frères et sœurs, eh bien je voudrais vous encourager, m'encourager moi-même, à demander encore et encore au Seigneur qu'il nous remplisse de son esprit. Qu'il me communique et qu'il vous communique ce dynamisme spirituel, cette puissance qui vient d'en haut, mais aussi cet amour et cette sagesse. Pour que la promesse s'accomplisse, parce que c'est une promesse, il y a des conditions de base. D'abord la repentance et puis la foi. Suivi de l'engagement, on sait ce qui s'est passé, tenez le jour de la Pentecôte, lorsque Pierre a prêché l'évangile devant ces milliers d'auditeurs, ils eurent le cœur vivement touché, ils dirent, oh mon frère, que ferons-nous? Et Pierre leur dira, bien repentez-vous. Voilà, ça commence par ça. Si ça n'est pas fait, si tu n'es pas converti, si tu n'as pas accepté Christ comme ton sauveur, ou si étant des gens convertis, peut-être tu es retombé dans le mal, dans le péché dans lequel tu trempais autrefois, tu t'es fourvoyé dans ton état de ta condition de chrétien, tu as dévié, tu as abandonné le bon chemin, repens-toi, repentez-vous et que chacun de vous soit baptisé au nom de Jésus-Christ. Et Pierre dira en ce fameux jour, et vous recevrez le don du Saint-Esprit. Car la promesse est pour vous, elle est pour vos enfants, et elle est pour tous ceux que le Seigneur notre Dieu appellera aussi, en aussi grand nombre qu'ils soient. La promesse, elle est pour nous. Les conditions de base, la repentance, la foi et l'engagement. Et puis, il faut demander. C'est pour ça que Jésus a dit, eh bien, demandez, et l'on vous donnera. Cherchez, vous trouverez. Frappez, l'on vous ouvrira. Voyez, il y a une insistance là. Il y a une recherche, il y a vraiment cette persévérance dans la demande. Et pour ceux qui ne sont pas encore baptisés du Saint-Esprit, mes frères, mes sœurs, recherchez ardemment cette bénédiction. La promesse est pour vous. Et il veut par son esprit vous communiquer force, amour et sagesse. Il me semble, je ne voudrais pas vous offenser, mais il me semble que par les temps qui courent, nous avons quelque peu perdu de vue cette réalité, cette nécessité pour nous croyants d'être remplis, d'être baptisés dans le Saint-Esprit. Lorsque j'étais enfant, je pense que mon frère René ne me contredira pas, je me souviens de ces temps, moi j'étais tout gamin, tout enfant, n'est-ce pas, où les chrétiens cherchaient le baptême dans le Saint-Esprit lorsqu'ils n'étaient pas encore baptisés du Saint-Esprit. Mais c'était un drame. Ils ne pensaient qu'à ça, mes amis. Et ils se réunissaient, et ils priaient, et ils jeûnaient, et ils cherchaient Dieu, jusqu'à ce que la promesse s'accomplisse. Alléluia. Et elle s'accomplissait. Alléluia. Et notre Dieu est toujours le même. Et il répond encore aujourd'hui. Amen. Mais il faut qu'il y ait cette recherche, voyez. Il faut qu'il y ait cette aspiration. Hein? Et le Seigneur dit bien, demandez. Et puis insistez, cherchez. Et puis frappez. Vous voyez, il y a une progression dans les termes qui sont employés. Il faut vraiment en passer par là. Et puis, on pourrait dire, mais ça y est, c'est ok, frère, j'ai parlé en langue. Allez, je suis baptisé du Saint-Esprit. J'ai atteint la norme. J'ai maintenant, eh bien, vraiment l'estampille divine. Je suis un authentique pentecôtiste. Je crois au baptême du Saint-Esprit. Je l'ai reçu. Tout est bien. Ok, d'accord. Mais on ne reçoit pas la bénédiction du Saint-Esprit une fois pour toutes. On a besoin d'un renouvellement constant. D'un renouvellement constant. On cite souvent ce verset, je pense que vous le connaissez, d'Éphésiens chapitre 5, verset 18. Il y en a même qui l'ont mis en chanson, en cantique. Soyez remplis du Saint-Esprit. Je ne suis pas du tout spécialiste du grec, peut-être Kevin me confirmera, hein, mais je pense que, d'après les commentaires que j'ai pu lire ici ou là, une autre traduction est possible de ce même verset. Il est possible de le traduire en disant. Remplissez-vous continuellement du Saint-Esprit. C'est pas une fois pour toutes, n'est pas une réserve dans laquelle tu puises et puis c'est fini. Non, mais il y a un renouvellement constant. C'est comme une source, vous voyez. La plénitude du Saint-Esprit, c'est comme une source qui est ouverte en nous lorsque nous sommes baptisés dans le Saint-Esprit. Et à cette source, on doit venir s'abreuver régulièrement. Amen. Dans l'évangile de Jean, au chapitre 7, au verset 37, d'ailleurs, Jésus emploie cette image. Il dit, celui qui a soif, qu'il vienne à moi et qu'il boive. Celui qui croit en moi, des fleuves d'eau de la vie couleront de son sein, de son cœur, comme dit l'Écriture. Et il est précisé, il disait cela, de l'Esprit que devaient recevoir ceux qui croiraient en lui. Est-ce que nous avons suffisamment soif? Ou alors est-ce que nous contentons d'une espèce de minimum, de SMIC spirituel? Voilà ce que j'ai reçu, ça me suffit, j'ai fait quelques expériences. Et j'en reste là. Non, mes amis, qu'il y a en nous cette aspiration profonde et constante. Que même si nous sommes convertis depuis 10 ans, depuis 20 ans, depuis 30 ans, depuis plus encore pour certains, il y a toujours cet intérêt pour les choses de l'Esprit. J'en veux encore, Seigneur. J'en veux encore. Parce qu'il y a le baptême dans le Saint-Esprit. Mais il y a aussi le fruit de l'Esprit, vous voyez. Cette capacité spirituelle, ces vertus spirituelles que le Seigneur veut produire en nous. L'amour, la douceur, la patience, la bonté, la bienveillance, etc. Il y a les dons spirituels. Ça ne veut pas vous dire ça, les dons spirituels. Quand vous lisez la parole de Dieu, 1 Corinthiens chapitre 12, la parole de sagesse, la parole de connaissance, le don de guérison, le don de miracle, le don de foi, discernement des esprits, la prophétie, la diversité de langues, l'interprétation. Seigneur, ces charismes de l'esprit. Mais ils sont pour nous, alléluia. Non pas que nous allons tous les exercer. Mais il y a aussi, au moins quelque chose pour moi là-dedans. Il y a au moins quelque chose pour toi, mon frère. L'exercice des dons spirituels, c'est pas réservé à une élite dans l'église, si tant est qu'il y ait une élite. Ça n'est pas réservé à quelques spécialistes. Faut pas raisonner comme dans cette église où un jour un prédicateur était de passage. Et il s'est étonné que ce matin-là, il n'y ait pas eu de dons spirituels. Alors il en a un petit peu parlé. Et la réponse qu'on lui a donnée, frère, la sœur qui d'habitude exerce les dons, elle n'est pas là ce matin. Alors, parce que la personne qui a reçu le don n'est pas là, il faut que Dieu se taise. Non, mes amis. C'est Dieu qui est à la source, à l'origine de tous les dons. Et il veut nous utiliser les uns et les autres. Et il faut que les jeunes et les moins jeunes, vous exerciez les dons spirituels. Vous tombiez sur notre face en disant, Seigneur, je veux pas simplement, nous l'avons entendu ce matin, participer. Mais je veux pouvoir te servir, être en bénédiction à mon église, même pas qu'à l'église, à ceux de l'extérieur, parce que vous savez, les dons spirituels, je déborde un peu du cadre de ma prédication, c'est pas seulement entre les quatre murs de notre église. Vous pouvez fort bien exercer un don spirituel en rendant témoignage à un converti. Tout à coup, quelque chose va venir sur votre cœur et vous allez lui apporter une révélation qui le bouleversera. Hein, je me souviens du témoignage de celui qui était mon formateur, qui est maintenant auprès du Seigneur. Il n'était pas encore pasteur à ce moment-là. Il travaillait à la météo nationale, à l'observatoire du Mont-Aigoual, en Provence. Et alors, il passait là 15 jours, vous voyez, puis il redescendait 15 jours. Et un soir, alors qu'il était tout seul dans l'observatoire, quelqu'un frappe à la porte. Il ouvre, et un jeune homme lui dit, voilà, je fais partie d'une équipe de géologues. Nous étions en train de faire des relevés dans la montagne, je me suis perdu, j'ai perdu mon équipe. La nuit est venue, j'ai vu la lumière de l'observatoire et je suis venu. Est-ce que vous pouvez m'héberger pour la nuit? Ah, bien sûr, il l'a accueilli, il lui a donné un bol de soupe et il a essayé de lui rendre témoignage. Et l'autre, fermé comme une huître. Ça vous arrive pas, ça? Et tout à coup, il se met à lui dire ce que vous m'avez raconté n'est pas vrai. Vous ne vous êtes pas perdu. Mais pour un problème sentimental, vous aviez pris la décision de vous suicider. Et au moment où vous alliez vous jeter dans le précipice, vous avez regardé en arrière, vous avez renoncé à votre geste et vous êtes monté vers l'observatoire. Quand il a eu dit ça, il se dit, qu'est-ce que je raconte là? Et tout à coup, en face de lui, l'homme s'écroule en larmes. Ce qui venait d'être dit était vrai. Vous voyez, c'est ça l'esprit. C'est ça, Hein? La sagesse de l'esprit. Et il faut s'attendre à des choses comme ça. Et il faut les revendiquer, non pas pour qu'on dise, oh formidable, quel homme spirituel, quelle femme inspirée, non, pour que Dieu soit glorifié. Pour que Dieu soit glorifié. L'esprit qui communique la force, l'amour, la sagesse. Non, 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 il ne faut pas s'installer dans une espèce de confort spirituel habituel. Mais il faut qu'il y ait un renouvellement constant. Il y a eu Actes chapitre 2, lorsque les premiers croyants, les premiers disciples ont reçu la plénitude du Saint-Esprit. Ils furent tous remplis du Saint-Esprit, se mirent à parler en d'autres langues selon que l'Esprit leur donnait de s'exprimer. Mais si nous poursuivons notre lecture du livre des Actes, arrivons au chapitre 4, et il y a là un temps de persécution. Alors ils ont organisé une réunion de prière mémorable. Et au cours de cette réunion mémorable, il est dit ceci au verset 31, « Quand ils eurent prié, le lieu où ils étaient assemblés trembla, ils furent tous remplis de Saint-Esprit, et ils annonçaient la parole avec assurance. » Avez-vous remarqué? Remplis du Saint-Esprit la première fois, mais renouvelés dans le Saint-Esprit également. Pourtant, ils avaient vécu la première bénédiction. C'est là notre besoin, qu'il y ait un renouvellement constant. Un serviteur de Dieu dont j'apprécie les écrits disait ceci, « La doctrine sans la puissance est un leurre. » Si vous voulez, la doctrine sans la puissance, c'est du bluff. Si je crois des choses authentiques mais que je ne les vive pas, je suis hors du coup. Et souvent, eh bien dans nos églises, et là c'est un petit peu comme ça, nous prétendons croire en tant de choses, un tas de choses, mais nous les vivons si peu. Seigneur, fais-nous grâce. Amen. Seigneur, fais-nous grâce. Viens nous visiter par le Saint-Esprit. Voyez, c'est ainsi, rempli du Saint-Esprit, plein de puissance, d'amour, de sagesse. Il y a un chant qui dit ça, je crois, hein? Un cantique. C'est ainsi que nous aurons quelque chose à communiquer à ce monde de la part du Seigneur. Il ne faut pas que l'Église soit une espèce de citadelle. Enfermé, replié, voilà, le monde est méchant, il est mauvais, surtout qu'il ne nous envahisse pas. Non, il faut que nous allions à la conquête du monde. Ok? Un jour dans une église, il y avait le pasteur, là c'était juste avant la réunion, il était assis devant, certainement il regardait ses notes, un frère vient le trouver, lui dit, frère, la porte est ouverte. Ben oui, la porte est ouverte, la porte de la salle. Et il revient une deuxième fois. Mais frère, la porte est ouverte. Ben oui, elle est ouverte. Frère, la porte est ouverte. Mais il n'y a pas de problème. Oui, mais quelqu'un pourrait rentrer. Ben oui, c'est le but. Que les gens rentrent. Non, pas qu'on se protège. Oh là là, le monde est mauvais. Restons entre nous. Non. Que la porte soit ouverte. Et que la grâce de Dieu touche les cœurs. Que des hommes, des femmes soient amenés au pied du Seigneur et se convertissent à Christ. J'ai tellement envie de voir ça. Et je pense que beaucoup parmi nous ont ce désir aussi. Nous avons impérativement besoin du secours du Saint-Esprit. Pour vous dire, peut-être, frère, on a déjà entendu ça des tas de fois, vous savez. Vous n'êtes pas le premier, hein? Mais les pasteurs qui vous ont précédé, ils ont dit la même chose. Et puis ceux qui nous visitent de temps en temps nous disent aussi la même chose. Certes, mais je finis par là, dans l'Épître aux Hébreux, chapitre 2, verset 1er, l'auteur du texte, inspiré par le Seigneur, dit ceci, « Nous devons d'autant plus nous attacher aux choses que nous avons déjà entendues, de peur que nous ne soyons emportés loin d'elles. » Nous devons nous attacher aux choses que nous avons déjà entendues. Ce que je vous dis ce matin, ce n'est pas une grande découverte, c'est élémentaire, c'est basique. Mais ce n'est pas seulement élémentaire et basique, c'est primordial. Il faut que nous soyons remplis du Saint-Esprit. Le monde se meurt, il est affamé. Je n'ai rien à lui offrir. Mais je viens vers mon Père Céleste, vers celui qui a tout ce dont j'ai besoin. Seigneur, donne-moi ces trois pains. Donne-moi le pain de la puissance, le pain de l'amour et le pain de la sagesse pour que, Seigneur, par ta grâce, par ton esprit, je puisse, de ta part, nourrir ce monde affamé qui a besoin de toi. Amen. Recueillons-nous quelques instants, s'il vous plaît.